C'est à toi, Valérie. Sois bénie et remplie de la présence de Dieu et que tu as toute l'autorité pour nous parler. Tu veux parler depuis ici ou depuis là? Qu'est-ce qui t'arrange?
Aise là, mais ça, si ça gêne, tu peux.
Aucun problème.
Ça va. Ouais, je suis émue et pleine de reconnaissance pour ce qu'on a déjà vécu dans ce culte. Je trouve qu'on a déjà vu l'action de Dieu très concrète comme ça dans les vies d'ici. C'est un beau culte. Merci Seigneur. Nous sommes actuellement dans une série de prédications où on s'intéresse justement à la vie de personnes transformées par Jésus le Christ. On a déjà entendu parler de Pierre, vous vous souvenez peut-être, où Jean Villard a mis l'accent sur ce Pierre qui témoigne non pas de lui-même, mais du ressuscité. Et puis dimanche passé, c'était au tour d'Apollos. Aujourd'hui, ainsi que dimanche prochain, nous nous plongerons dans la vie de Paul de Tarse. Alors c'est un gros morceau, c'est un homme, vous verrez, vous savez, qui est passionnant. Je crois que ce n'est pas un luxe, comme ça, d'une fois, consacrer deux prédications sur un personnage comme ça, quand même incontournable pour les chrétiens. Alors, pourquoi Paul et pourquoi sa conversion à Jésus le Christ? Paul a un itinéraire spirituel et un impact hors norme dont le premier siècle est bien au-delà. Il va marquer l'histoire du christianisme de manière indélébile. Paul a été littéralement retourné, c'est le même mot pour conversion, retourné par Jésus le Christ. Ce qui fait que Saul de Tarse, son autre nom, va complètement changer d'attitude, de conviction, de vision, de comportement à l'endroit de Jésus. Avec cet homme, une des choses qui est vraiment frappante, c'est qu'il y a un avant sa rencontre avec Jésus, un après, et puis une rupture vraiment soudaine et radicale à la racine. Et c'est ce qu'on va tenter juste un peu de comprendre aujourd'hui. Alors si aujourd'hui on s'arrête, et puis la semaine prochaine sur l'histoire de Paul, c'est pas pour se remplir la tête, pour s'occuper là dimanche matin parce qu'on ne saurait pas quoi faire d'autre. Mais c'est vraiment, et d'ailleurs lui-même, Paul, quand il parle de sa conversion, ça a toujours été dans un but très clair. Non de parler de lui-même, mais de celui, Jésus-Christ, qu'il avait saisi, qu'il avait trouvé, selon ses mots dans l'Épître aux Philippiens. Paul attribuait tout à la personne du crucifié et du ressuscité, ce qui fait que pour nous aujourd'hui, l'important, c'est de connaître, voilà, connaître, naître avec celui qui a saisi Paul à un tel point qu'il a pu dire « ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi ». Alors je dirais que c'est aussi dans cet état d'esprit que cette prédication est donnée, que nous aussi, nous puissions continuer notre chemin de foi, que nous aussi, quel que soit notre âge, quelle que soit notre maturité, nos avancées, nos reculées, nos tombées dans notre vie spirituelle, nous puissions nous laisser saisir, retourner même, si vous êtes d'accord, par le Christ. Pour certains, ça peut être un premier pas, comme ça, un premier pas à la suite de Jésus. Et puis pour d'autres, bah, c'est une suite, ça finit jamais. Voilà, alors pour mesurer et réaliser vraiment l'impact que le Christ a eu dans la vie de cet apôtre, il faudrait lire beaucoup de passages dans le Nouveau Testament, il faudrait lire au moins les trois récits se trouvant dans le livre des Actes, et surtout les passages même de la plume de Paul. Donc il y a comme deux portes d'entrée pour s'intéresser à la vie de Paul, une se trouvant dans les Actes des apôtres qu'on attribue à l'évangéliste l'auteur de l'Évangile selon Luc, qu'on date à peu près dans les années 80-85, et puis une autre porte d'entrée par l'intéressé même, lorsque lui-même parle de ce qu'il a vécu, et puis ça, ça date plutôt à partir des années 50. Donc c'est bien si on peut voilà, avoir ces deux portes d'entrée, puis pouvoir avoir ça, pouvoir relier ça. Aujourd'hui, ben voilà, je vous rassure, hein, on prend juste un passage, le premier dans le livre des Actes, chapitre 9, les versets 1 à 9. Alors j'espère que vous pouvez voir. Saul, ne respirant toujours que menaces et meurtres contre les disciples du Seigneur, alla demander aux grands prêtres des lettres pour les synagogues de Damas. S'il trouvait là des adeptes de la voie, hommes ou femmes, il les amènerait enchaînés à Jérusalem. Poursuivant sa route, il approchait de Damas quand, soudain, une lumière venue du ciel l'enveloppa de son éclat. Tombant à terre, il entendit une voix qui lui disait « Shaoul, Shaoul, pourquoi me persécuter ?»« Qui es-tu, Seigneur ? » demanda-t-il. « Je suis Jésus, c'est moi que tu persécutes. Mais relève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. » Ses compagnons de voyage s'étaient arrêtés, muets de stupeur, ils entendaient la voix mais ne voyaient personne. Saul se releva de terre, mais bien qu'il eût les yeux ouverts, il n'y voyait plus rien, et c'est en le conduisant par la main que ses compagnons le firent entrer dans Damas, où il demeura privé de la vue pendant 3 jours, sans rien manger ni boire. Alors, si on veut tâcher de comprendre un petit peu, on va rester modeste, de ce qui s'est passé là, sur ce chemin de Damas, si on veut comprendre un petit peu de cette rupture, donc de cet avant et cet après chez l'apôtre, j'irai même plus loin, je crois que si on veut comprendre ses écrits, ses lettres, sa correspondance, il faut nous intéresser à la vie de cet apôtre. Ben voilà, comme chacun de nous, il a eu une vie avant sa rencontre avec Jésus, il est né à un certain endroit, à une certaine date, a grandi dans un contexte, etc. Et puis adulte, comme nous, ben, il a fait ses choix de vie, pris des engagements, exercé un métier, et on le verra, c'est un homme qui a des ambitions très élevées et qui, très tôt, a des buts comme ça très clairs dans la vie. Alors, dans le cadre d'une prédication comme ça, on ne peut pas aller vraiment dans le détail de tout ça, mais en tout cas, ça vaut la peine de s'intéresser à tout ce contexte pour comprendre non seulement sa conversion, mais aussi son rayonnement, aussi son influence énorme qu'il a eue, et ça c'est important, parmi des populations au style très différent. Très clairement, c'est l'homme qui avait les atouts, le bagage pour s'adresser à un large public. Alors je laisse juste une ou deux notions comme ça pour vous faire un peu envie. Paul, à la différence des premiers disciples de Jésus, n'est pas un pêcheur vivant en Galilée. C'est un citadin et un intellectuel de haut vol. Les spécialistes estiment qu'il est né entre 7 et 10 de notre ère, donc ça fait à peu près le cadet de Jésus d'une dizaine d'années. À ce moment-là, dans l'Antiquité, l'identité des personnes était liée à 3 facteurs, le sexe, la généalogie et la géographie. C'est pas très différent maintenant, un peu, mais... Le sexe, être homme, masculin, donnait immédiatement droit à la formation scolaire. La généalogie, ben oui, c'est un peu encore comme ça. Naître et grandir dans une famille aisée et cultivée permettait d'accéder à des études. Et puis géographiquement, être né en ville plutôt que dans un village, ben voilà, changeait la donne. Et Paul a bénéficié de tout cela. En plus, il était citoyen romain. Il faut juste imaginer que c'était un privilège qui était offert à une minorité de personnes. Et que Paul bénéficiait du plus grand titre de noblesse dans l'Empire romain. Donc, de par sa famille, Paul a déjà, on pourrait dire, un standing social élevé. Paul vient de Tars. On voit, je ne sais pas trop comment on fait ça, voilà, ici, Tars. Tars, de par sa situation géographique, c'est un lieu de passage, de trafic de personnes, de commerce. Donc, c'est cosmopolite, Tars. Et puis, cette ville est connue pour avoir des écoles philosophiques réputées. Et quand on lit la correspondance paulinienne, que ce soit Romains, les Corinthiens, Galates, on se rend compte que le Tarsiote a bénéficié d'une formation à la culture, en particulier à la rhétorique gréco-romaine, donc à la façon de parler, à la façon de penser, à la façon de raisonner. Voilà. Et puis, sur le plan religieux, ben Paul, vous le savez sans doute, il ne vient pas de nulle part. Ce n'est pas un agnostique, ce n'est pas un athée, ce n'est pas quelqu'un qui est en recherche, ce n'est pas un païen, non, c'est quelqu'un qui est juif, de la tête aux pieds. Et d'ailleurs, à ce moment-là, ce n'est pas Paul, c'est Saul. Saul, c'est son nom juif. À Tars, ça veut dire que c'est un juif de la diaspora. Donc, pas un juif qui vit en Palestine, mais de la diaspora. Puis c'est important parce qu'ils ont un autre contact avec le reste de la population, une autre manière d'envisager les relations. Comme tout bon juif, eh ben, il a étudié les Écritures à l'âge de 5 ans, hein, à la maison, à la synagogue, en famille, on ne se repose pas, on apprend l'hébreu. Et les Écritures, quand on lit Paul, on voit qu'il les a mémorisées, intégrées, pratiquées, pas seulement seul, mais en famille, en communauté. Voilà, alors, je résume pour dire simplement que Paul, ce n'est pas un ermite, c'est quelqu'un qui est vraiment intégré dans le monde dans lequel il vit, aux trois cultures importantes de son temps, la culture romaine par son statut de citoyen romain, la culture grecque de par sa formation, et puis la culture hébraïque de par ses origines religieuses. Voilà, à grands traits rapides, à peu près les 20 premières années de la vie de Paul. Je vais vite, mais voilà, parce que c'est peut-être pas ça qui est le plus important, mais quand même, ça situe quand même de se dire, ben voilà, on a affaire à quelqu'un qui a des ressources, qui a ce qu'il faut. C'est un homme ambitieux, je l'ai dit. Vers 19 ans, l'élite intellectuelle choisit un courant dans le judaïsme et un maître. Et Saul, on le sait par le livre des Actes, se rend à Jérusalem auprès de Gamaliel, qui est un des plus grands rabbis de l'heure. Et Gamaliel appartient au courant pharisien. Dans cette école, Saul approfondit encore sa connaissance des Écritures et apprend quelque chose d'important, les techniques d'interprétation. C'est quelque chose, quand il va écrire ses lettres, relire l'Ancien Testament, ben, il va aussi utiliser tout ce bagage qu'il a reçu. Arrivé au terme de tout ce parcours, Saul a un but très clair dans sa vie, servir la gloire de Dieu. Il est passionné par la gloire de Dieu et en particulier par la Torah. La loi, ma vie, c'est la loi, pouvait-il dire. Donc cette Torah, en tant que pharisien, pour lui c'est tout. Il la chérit, il l'aime, et je dirais même que cette Torah, elle est dans sa peau, elle fait partie de son identité. Et puis il arrive quelque chose d'un peu étonnant, c'est que Saul, il fréquente cette synagogue et il entend des gens qui disent un discours qui l'irrite au plus haut point. Certains disent que Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Donc Jésus, il est mort, il est ressuscité, il est assis à la droite du Père. Les premiers disciples commencent à dire Jésus est Seigneur. Et puis lui, c'est un type intelligent, il comprend très vite qu'avec un tel discours, c'est la base de sa foi en Dieu et de celle de son peuple qui est menacé, qui est secoué, qui est remise en question. Alors il se met à se défendre, et je dirais à défendre la gloire de Dieu, et il va arriver jusqu'à... il est intègre, il est très comme ça, entier, il va aller jusqu'au bout, et il ira même jusqu'à persécuter les chrétiens. Voilà, vite dit, le Saul avant sa rencontre avec Jésus. Quelqu'un qui connaît les Écritures, quelqu'un qui a une éducation brillante, un standing, et il sert Dieu avec toutes ses tripes et rien ni personne ne peut l'arrêter. Alors qu'est-ce qu'on pourrait dire pour nous aujourd'hui avec ça, parce que voilà, on n'est pas Saul de Tarse, on n'est pas pharisien, on n'a pas vécu à son époque. Et pourtant, il me semble que nous, en tant que chrétiens, pouvons être convaincus d'avoir raison. Nous avons des projets parfois, des visions, des idées que rien ni personne ne peut nous arrêter. Nous sommes convaincus de servir la gloire de Dieu et nous ne nous rendons même pas compte que nos attitudes peuvent être arrogantes, blessantes et faire mal au corps du Christ. Dieu, dans sa grâce et sa bonté infinie, va aller trouver Paul. Et ça m'a fait penser à ce mouvement quand Adam a péché et puis que Dieu allait le trouver dans le jardin avec une question. Et cette question, c'est « Shaoul, Shaoul, pourquoi me persécutes-tu ?» Alors, je dis juste deux choses par rapport à ça. La première, c'est vrai que nos traductions, elles sortent pas vraiment, elles disent parfois « Saoul », d'autres disent « Saulos » ou « Saul », etc. « Shaoul, Shaoul, pourquoi me persécutes-tu ?» c'est son nom hébraïque. Et « Sha'al », c'est construit à partir de la racine « Sha'al » qui veut dire « demander, interroger ». Et « Shaoul », c'est simplement la forme participe passif, celui qui est demandé, qui est interrogé. Donc, il y a déjà un retournement. C'est plus Saul qui va interroger les chrétiens à Damas, c'est lui qui est interrogé et pas par n'importe qui. Quelque chose d'important, Shaoul, il entend son nom dans sa langue, si ce n'est pas maternelle, culturelle en tout cas. Il entend son nom dans sa langue culturelle. Et puis, à la différence souvent de nous, il connaît ses Écritures et il sait quelque chose d'important. C'est qu'une double appellation comme ça, Shaoul, Shaoul, ce n'est pas un hasard. Il sait que quand Dieu appelle quelqu'un deux fois par son prénom, c'est sérieux. Il l'a mémorisé, il sait que d'autres avant lui ont déjà fait cette expérience. C'est ce qu'on appelle une structure dans les récits de vocation de l'Ancien Testament. On trouve ça pour Abraham, Jacob, Moïse et d'autres. J'en ai pris juste un exemple. Jacob, Genèse 46, 2, Jacob, Jacob. « Me voici, dit-il. Il dit alors, je suis elle, le Dieu de ton père. Ne crains pas de descendre en Égypte, car je ferai de toi là-bas une grande nation. » Lorsque Shaoul entend cette voix, il sait que ce n'est pas une hallucination. Il sait que ce n'est pas un phénomène psychologique, ce n'est pas un ange qui lui parle. Il reconnaît que c'est la voix de Dieu, la voix du Dieu de ses pères. Et d'ailleurs, sa réponse est très claire puisqu'il dit « Qui es-tu, Seigneur ?» Vous imaginez un Shaoul fou de rage contre les chrétiens, reconnaissant encore la voix de Dieu. Et je trouve que c'est encourageant de se dire que Dieu sait rejoindre ses enfants au cœur même au plus dur. Il trouve encore le passage pour aller les rejoindre dans leur langue, dans leur façon de penser. Il y a encore un espace. Je trouve que c'est très encourageant pour nous aussi qui sommes en contact avec des gens qu'on aimerait qu'on porte dans notre cœur. La deuxième chose, Shaoul est mis en face de celui qu'il est en train de persécuter. Je suis Jésus, c'est moi que tu persécutes. La manière qu'a le Seigneur de se présenter a quand même quelque chose de curieux. On aurait pu s'attendre à quelque chose de plus convaincant. La voix aurait pu dire « Mais je suis le Fils de Dieu ». Je suis le Verbe qui était au commencement, je suis celui qui est assis à la droite du Père. Mais non, je suis Jésus, c'est moi que tu persécutes. Autrement dit, tu me fais mal. Jésus, le Seigneur, ne se révèle pas à Shaoul dans sa divinité inaccessible, mais au contraire dans son humanité souffrante. Et c'est là qu'intervient vraiment le retournement. Saoul croyait servir la gloire de Dieu en persécutant les chrétiens et il découvre qu'il blesse, non pas juste des chrétiens, mais Dieu lui-même. Et c'est là qu'il se retrouve par terre et aveugle. Et c'est pas juste son articulation, sa rotule qu'il porte plus, parce que si c'était que ça, ça irait encore. Mais c'est ses convictions, c'est ce qu'il avait construit pendant des années qu'il avait bossé, tout est brûlé, et se casse la figure, on pourrait dire. Il est en train de comprendre que Jésus de Nazareth, le crucifié, à qui il interdisait le titre de fils de Dieu, est là devant lui. Lui qui était convaincu de par son éducation qu'un pendu au bois ne pouvait pas être le Messie, se retrouve dans une position à genoux, dans laquelle j'aimerais bien nous voir plus souvent, à genoux devant le Christ, le crucifié. Alors voilà, je l'ai dit rapidement, ça c'est Acte qui le dit comme ça, je dis juste en vite que Paul lui-même après, 20 ans après à peu près, il va revenir sur cet événement, puis il va écrire. Et puis ce qu'il va dire en 1 Corinthiens 9.1, il dira, je ne l'ai pas noté, mais il dit « j'ai vu le Seigneur ». Ou bien en 1 Corinthiens 15.8, le Christ m'est apparu comme à l'avorton. Donc Paul a vu le Seigneur Jésus parce qu'il lui est apparu. C'est ce qu'on appelle une christophanie. C'est une révélation, un dévoilement, comme si il ouvre les rideaux, puis il voit. Et il y a un auteur qui a dit une phrase, il me semble, qui résume bien ce qu'a vécu Paul. C'est tout simple. C'est juste, il dit ça, pour Paul, Dieu a ôté le voile qui l'empêchait de voir sa gloire sur le visage du Christ Jésus. Dieu a ôté le voile qui l'empêchait de voir sa gloire sur le visage du Christ Jésus. Voilà, je vous ai dit en début de prédication, c'est une vie comme cassée en deux, hein? Et puis il y a l'après. Alors j'y vais, j'ai le temps d'aller. Alors quels impacts concrets dans la vie de Paul après Damas? J'en nomme juste trois, avec des interpellations pour nous aujourd'hui. Avant Damas, Paul croyait avoir de la valeur aux yeux de Dieu à cause de ses origines, à cause de sa connaissance, à cause de sa pratique active, intègre. Et au fond, sa fierté, sa valeur, son identité reposaient sur ses mérites et ses qualités. Après Damas, tout ne sera pas balayé parce que Paul ne renoncera pas à son identité juive, il ne renoncera pas à son statut de citoyen romain, ni à ses connaissances. Mais par contre, toutes ces choses, tous ces acquis changeront radicalement à la racine de valeur, de rôle, de fonction. Paul a découvert que ce qui le tient debout devant Dieu fondamentalement, c'est la grâce de Dieu. Et il y a ce passage dans 1 Corinthiens 15-10 qui dit « Mais ce que je suis, je le dois à la grâce de Dieu, et sa grâce à mon égard n'a pas été vaine. Au contraire, j'ai travaillé plus qu'eux tous, non pas moi, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. » Aujourd'hui, pour nous, on peut se demander encore, qu'est-ce qui nous porte Qu'est-ce qui nous, ou plus précisément, qu'est-ce qui nous valorise aux yeux de Dieu? Est-ce le fait d'avoir réussi par exemple, je ne sais pas, ses devoirs spirituels, réussi les défis qu'on s'était imposés, la discipline qu'on s'était imposée? Est-ce que notre valeur repose sur la réussite de notre famille, de l'éducation de nos enfants, de notre vie conjugale? Et puis, sur un plan plus collectif et ecclésial, on peut aussi se poser la question de ce qui nous tient debout. Avons-nous de la valeur en tant qu'Église parce que notre Église est plus ceci, cela ou moins ceci, cela? Et il me semble qu'une identité ancrée et ré-ancrée en Christ, évidemment, ne balaye pas toutes ces choses, mais leur donne juste leur juste valeur, leur juste place. Et que par conséquent, l'identité ecclésiale sera réajustée en Christ. Et quand l'identité en Christ de l'Église, elle sort de cette logique de comparaison avec les autres, je crois. La deuxième interpellation, je crois que ce texte montre avec force qu'on peut avoir entendu parler de Jésus. On peut avoir des représentations de lui, on peut avoir une très bonne éducation chrétienne, des connaissances, sans encore connaître avec Christ, sans avoir cette relation avec le « je » et « tu ». Et le fait d'être connu de lui par son prénom, donc dans son identité, mérite d'être vécu, expérimenté, réexpérimenté. Et personne n'est exclu de cette relation personnelle. Ça peut être la première fois, peut-être que pour certains, ça pourrait être la première fois comme une découverte. Et je ne peux qu'encourager à s'ouvrir à cette dimension-là. Et puis pour d'autres, eh ben c'est une reprise parce qu'on a toujours besoin de vivre cette proximité avec lui. Et puis, cette conversion montre aussi que Dieu sait s'adresser à nous et à nos proches. Il sait et saura se rendre accessible dans un langage et dans des catégories, même aux cœurs les plus durs. Même aux cœurs les plus durs. Et malgré l'entêtement de Saul, malgré sa violence, il y avait encore un espace pour la voix de Dieu. C'est génial! Et puis, la troisième interpellation, c'est Paul est passé d'un Dieu qu'il voulait saisir, qu'il voulait maîtriser, à un Dieu qui s'est saisi de lui. Et avec pour conséquence une profonde démaîtrise, un profond ébranlement, une cassure même dans la vie de Paul au profit de quelqu'un d'autre qui prend les commandes. Et c'est à ce moment-là que le brillant Tarsiote connaît, naît, on pourrait dire renaît, naît de nouveau si on emprunte le vocabulaire johannique, évangile de Jean, renaît, et se retrouve à genoux devant Jésus, le Messie. C'est ma prière pour l'Église d'aujourd'hui, qu'elle trouve et retrouve sa place au pied du Maître Jésus, le Christ. Amen.